Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va.
J'ai appris à me battre, j'ai appris à me défendre, j'ai appris à dire stop, j'ai appris à être seule. Donc ça a été alors aujourd'hui pareil, j'ai beaucoup de recul parce qu'à l'époque je disais pas, j'étais pas aussi émerveillée, mais ça a été c'est une merveilleuse expérience parce que ça m'a transformée à vie et c'est grâce à mon fils. Il n'est pas du tout lié aux mauvais événements, mais il a contribué à me rendre encore plus forte. Et en fait, on se rend compte qu'avec de l'amour, avec le partage et avec l'envie en fait de faire évoluer les choses ou les gens ou nos enfants positivement, ça donne des ailes. Voilà ce que ça m'a appris. Et donc, c'est merveilleux. Et en même temps, c'est un boulot de dingue.
Alerte modèle inspirant et réaliste pour la saison 3 de Réel. Avec option débouché, je précise. Désolée, mais je pouvais plus attendre. Avec mon invitée, on s'est rencontrés grâce au podcast et sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, j'adore ce qu'elle fabrique. Donc, je l'ai tout de suite contactée. Ce qu'elle fabrique au sens propre du terme, parce qu'elle a une marque géniale, éthique et durable, qui s'appelle Loose Collection. J'adore ce qu'elle incarne, j'adore ce qu'elle diffuse, autant avec sa marque qu'avec sa personnalité. Vous allez vous en rendre compte, c'est une femme solide, ténace, joyeuse, et elle m'a beaucoup aidée. J'espère sincèrement que ce sera la même chose pour vous. Elle m'a beaucoup aidée, pourquoi ? Parce qu'en fait, elle a un discours hyper franc et réel sur le fameux couteau suisse dont on nous parle tout le temps, qui combine femme, française, entrepreneuse et maman. Avec elle, on a parlé bien entendu de Loose Collection. Donc ça se prononce Loose, mais ça s'écrit Luse, hein, je précise, j'ai fait l'erreur. Ça s'écrit Luse, L-U-Z Collection. Donc on a parlé de sa marque, d'entrepreneuriat sans levée de fonds pendant 10 ans, record quand même, de difficultés et de joies qui vont avec, de désarroi sentimental, de nos périodes de renouveau, de l'importance de se réinventer sans se renier, et de ce que la France a de plus beau. Petite précision avant de lancer l'épisode, on l'a enregistré avant l'été, donc dedans on a glissé en cadeau de rentrée un code promo, c'est tout simplement AirPodcast, donc AirPodcast tout attaché, vous allez avoir une réduction si vous allez acheter quelque chose sur Loose Collection. Je suis certaine que vous allez craquer pour un truc. Voilà, donc ça c'était le cadeau de rentrée et maintenant j'arrête de parler et je laisse la parole à la génialissime Claire Mougenot, fondatrice de la marque engagée et durable Loose Collection.
Claire, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis ravie parce que j'ai beaucoup d'admiration pour ce que tu fais, enfin ce que vous faites, parce que tu as quand même une petite équipe avec toi, à savoir Luse Collection.
Alors, on dit Loose en général.
Loose, excuse-moi.
C'est pas grave, alors, c'est lumière en espagnol.
Je vais reprendre. Okay. On dit Loose, donc... Ouais, mais tu vois, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire Luse.
Non, parce que c'est un genre de Luse.
Ouais.
Et en fait, tout le monde dit Luse, mais on s'en est rendu compte bien après. Ça fait partie de toutes les choses. Quand tu montes une marque et une entreprise, après, tu te rends compte qu'il y a des trucs qui sont un peu des couacs, mais bon, voilà, c'est comme ça.
Donc, Loose Collection, donc ça veut dire quoi ?
Lumière en espagnol.
Donc, j'ai repéré ta marque sur les réseaux,
c'est
parce
vrai.
Que je ne te connaissais pas avant, je ne t'ai pas vue avant, tu vois, alors que pourtant, t'as une boutique qui n'est pas très loin de chez moi. Mais je t'ai repéré sur les réseaux parce que je suis concernée par l'éthique, ou en tout cas la mode durable, et c'est ton cas. Bon, en tout cas, je vais te laisser la parole pour te présenter, déjà toi personnellement et professionnellement, et ensuite nous parler forcément de ta marque, puisqu'on est là pour ça.
Eh ben, écoute, Estelle, merci de m'interviewer, je suis ravie. Moi, je t'ai connue via tes podcasts, et j'ai tout de suite été enchantée par ta douce voix, mais vraiment, qui me berçait. et vraiment, j'ai écouté beaucoup tes interviews, donc c'est un honneur pour moi d'être l'interviewée. Oh,
ben, c'est gentil, merci beaucoup.
Donc voilà, alors, me présenter, bon, c'est toujours l'exercice le plus difficile, mais il faut quand même le faire. Donc, je m'appelle Claire Mougenot, j'ai 34 ans, je suis maman d'un petit prince, Roman, qui a 4 ans. J'ai tout de suite sorti d'études, monté ma boîte, donc Loose Collection. Loose, effectivement, qui veut dire lumière. Alors, pour deux raisons, on a choisi ce nom. Un, parce qu'on a tous une lumière au bout, enfin, dans nos vies, enfin, on en a plusieurs, et que c'est toujours important, effectivement, de la voir ou de savoir qu'un jour on va la voir. Donc moi c'est très important. J'ai été éduquée dans une famille, notamment par une grand-mère paternelle très mystique, pour ne pas dire plus. Et donc la notion de lumière pour moi a beaucoup de résonance. Donc c'était important. Et le deuxième aspect, c'est que j'ai vécu pendant 6 ans en Amérique latine, en Argentine, à Buenos Aires. C'est un pays qui m'a totalement transformée. Moi, à la base, je suis une Parisienne 100%. J'ai fait mes études entre Saint-Jean-de-Passy, La Tour, pour ceux qui connaissent le 16e. Heureusement, mes parents, qui ont toujours voulu qu'on soit des enfants assez ouverts, nous ont beaucoup fait voyager. Donc, j'avais toujours le voyage et l'ouverture.
Vous faisiez quoi, tes parents?
Mon père est un entrepreneur. Il a monté une entreprise de capital investissement qui s'appelle Argos Auditique. Et ma mère est décoratrice d'intérieur.
Ok.
En tout cas, dans toute la lignée paternelle, nous sommes entrepreneurs depuis toujours.
D'accord.
Donc voilà. Et donc, je suis partie à 23 ans en gap year. Donc, j'ai fait une prépa et une école de commerce, l'EDEC.
En gap year?
Ouais, en gap year, c'est l'année
c'est
stage.
C'est
césure. Ouais, exactement, l'année de césure, exactement.
Okay.
Et donc, je suis arrivée un peu par hasard à Buenos Aires, en stage dans une entreprise de commerce équitable et de produits bio alimentaires. Alors,
génial.
C'était en 2008, donc autant te dire qu'en 2008, le bio et l'équitable, il y avait Max Avelar et c'est tout. Et donc voilà, donc quand j'ai annoncé ça à mon père, il m'a fait un peu les gros yeux en me disant « Ah non, tu vas pas terminer chez Greenpeace ». Finalement, il a appelé un de ses copains pour lui parler de la boîte qui habite à Buenos Aires, qui lui a dit « Ah bah écoute, j'ai investi dans cette boîte, ça cartonne ». Donc là, tout de suite, effectivement, ça l'a un peu rassuré. Et donc... pour ces deux aspects, Buenos Aires a littéralement changé ma vie. Elle m'a montré effectivement qu'il y a plein d'autres choses que l'univers parisien ou français qu'on connaît. Les Argentins, c'est des gens absolument fabuleux qui sont habitués aux crises économiques, qui ont vécu sous la dictature. Donc c'est vraiment des gens qui s'adaptent, qui se réinventent tout le temps. Un jour, ils se sont retrouvés, les banques avaient vidé leurs comptes, donc ils ont aussi une notion du renouvellement et de comment on se réinvente constamment. Il n'y a pas d'âge pour se réinventer, qui est absolument fascinante. Ils sont extrêmement mystiques, très proches de la nature, très proches de Dieu. L'Argentin, quand tu le quittes, il te dit que Dieu te protège, avec un grand sourire, donc c'est un côté hyper chaleureux. Et puis, je me suis plongée dans l'écologie, la vraie réalité de qu'est-ce que c'est que vraiment la problématique de l'écologie. J'ai passé 6 mois à essayer de convaincre les agriculteurs de passer de l'agriculture conventionnelle sous Monsanto, littéralement, parce que l'Amérique latine, il n'y a que Monsanto qui dirige les agriculteurs, encore plus qu'en Europe, et leur expliquer l'importance de revenir au traditionnel et donc au bio. Et en fait, je me suis retrouvée face à des problématiques terribles, économiques. Il faut laisser les terres se reposer entre 8 et 12 mois. Ils t'expliquent qu'ils ne vont pas avoir de revenus pendant ces 8 et 12 mois et donc ils ne peuvent pas. Et sans parler de les communautés qui vivent près des zones où il y a beaucoup de pesticides. Il y a des enfants qui sont mal formés, il y a des maladies. Enfin, c'est une réalité vraiment atroce. Donc, ça m'a pris de plein fouet. Et donc... on a appelé la marque Luz pour toutes ces raisons-là.
Pour la lumière.
Pour la lumière et pour ce lien que j'ai avec l'Amérique latine, pour cette envie de renouveau et voilà.
Et donc à cette époque, tu as 24, 23
À cette époque, j'ai 23, exactement. J'ai 23, je travaille pendant un an et demi pour cette entreprise, d'abord en stage, puis ensuite je suis embauchée.
Ouais.
Ils m'envoient ensuite à New York pour m'occuper en fait de la distribution des produits.
Okay.
Donc on vendait un peu tout, des fruits et des légumes, mais moi je m'occupais de toute la partie huile d'olive, chimichurri, qui est une espèce de condiments que tu mets avec la viande très réputée en Amérique latine. Et ils vendaient dans les Whole Foods. Donc moi, je m'occupais du merch et de la distribution.
Okay.
Et pour booster les ventes, je faisais des testings dans les Whole Foods. Donc j'arrivais avec mon petit tablier, mon petit stand.
J'adore.
Mes petites baguettes de pain toutes fraîches.
C'est là que tu apprends à vendre en même temps, c'est dans ces moments-là.
Exactement. Et alors, autant te dire que les New-Yorkais me regardaient en disant « Mais qu'est-ce que fait une Frenchie ?» en train de nous vendre des produits organic and fair trade coming from Argentina à New York. Enfin, vraiment, ils étaient... Alors, en plus, moi, je leur faisais des grands sourires parce que je bosse, moi, depuis que j'ai 15 ans, donc j'ai toujours fait hôtesse, babysitter, enfin, j'ai toujours fait plein de petits boulots, j'adore ça. Et ils étaient fascinés. Donc, un, déjà, ce qui était top, c'est qu'ils écoutaient tout mon truc où je leur disais, you need to change the world, so buy organic and fair trade products. Et en plus de ça, ils me disaient, mais c'est génial. C'est génial, on adore ton histoire et tout. Et là, je me suis dit, ok, donc en fait, il y a vraiment un truc à faire. Il faut s'engager sur des produits sympas, avec un vrai ADN et un vrai engagement. Les gens, je me suis dit, ça y est, c'est mon business plan, les gens vont acheter. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et donc là, je me suis dit, ça y est, je lance une marque éthique.
Mais tu savais ce que ce serait ?
Non, pas du tout.
Ouais. Tu savais pas que ce serait
Pas du tout. Je savais pas du tout. En fait, à la base, je me suis beaucoup plus tournée sur l'énergie renouvelable. Mmh. Moi, j'avais fait un mémoire de fin d'année sur le tourisme durable.
Okay.
La viabilité du tourisme durable. Est-ce que vraiment on peut faire un écologe 100% durable ? Et donc j'avais fait toute une thèse sur est-ce que vraiment le solaire c'est durable ? Est-ce que récupérer l'eau de pluie c'est possible ? Comment est-ce qu'on fait des toilettes ? Enfin, toutes les vraies problématiques aujourd'hui pour savoir est-ce que c'est un peu engagé ou est-ce que c'est vraiment 100% éthique et durable. Bon, pareil, aujourd'hui, les choses ont énormément évolué. Et il y a 10 ans, il y avait très peu d'hôtels engagés. Maintenant, effectivement, il y a des procédés absolument hallucinants pour l'écologie. Et deuxièmement, il y a des vrais hôtels qui le sont de plus en plus. Et donc voilà. Bah, donc à la base, j'étais plus là-dessus. Mais comme j'avais 23 ans, je me disais, alors monter un hôtel au fin fond de la Patagonie toute seule, avec mes chevaux et
là,
mes vaches, c'est hyper sympa, mais je risque quand même de m'embêter. Et puis, au bout de 6 ans en Amérique latine, la France a commencé à me manquer. Mon grand-père est tombé malade, j'étais très proche de mon grand-père. Donc c'est vrai que quand on habite très loin, on trouve ça génial au début. On se crée un peu une vraie double personnalité. En fait, on se trouve nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, on se crée loin des amis, de la famille, de tout ce qu'on nous a appris. On parle une autre langue. Moi, ça m'a vraiment transformée psychologiquement. Mais bon, au bout d'un moment, tout revient au galop, quoi. Et en fait, la France m'a manqué, ma famille, mon petit 16e, que j'adore aujourd'hui. J'habite dans le 16e, mes bureaux sont dans le 16e, et je suis dans mon petit quartier d'enfance, et en fait, j'adore.
Je ne te critiquerai pas.
Non, mais je suis très fière aujourd'hui de dire, moi, j'ai voulu, quand j'étais en Argentine, moi, je voulais vivre dans la Pampa. J'avais un fiancé argentin, on avait des chevaux, et tout le week-end, j'étais à cheval. Voilà, et je trouvais ça génial. Et d'ailleurs, mon cher et tendre ex, que j'aime d'ailleurs toujours beaucoup, avec qui je m'entends très bien, se foutait de moi et me disait, écoute Claire, arrête de te prendre pour Marie Ingalls dans la petite maison dans la prairie. C'est bon, tu l'as fait ton truc, retourne dans ton 16e, retourne prendre des verres avec tes copines. Et ça m'agaçait, et donc voilà. Mais il avait pas tellement tort. Je pense que ça a été une belle période de ma vie qui m'a amenée là où on est aujourd'hui, et j'en suis...
Et tu aurais peut-être pas pu le faire toute ta vie non plus.
Exactement. Donc en fait, la maturité, d'avoir essayé plein de trucs et au fond, de s'asseoir tranquillement et de se dire en fait, là, je suis très bien. Ouais. J'ai plus trop besoin de bouger. J'ai expérimenté, réfléchi. Et voilà où j'en suis aujourd'hui.
T'as fait du chemin parce que ça fait presque 10 ans du coup, enfin à peu près 10 ans que t'as créé ton entreprise. Alors est-ce que tu peux nous parler un peu de ton équipe, qui t'entoure, comment ça s'est fait Bon, après, comment ça s'est fait, ça m'intéresse beaucoup parce que 10 ans, finalement, c'est significatif, c'est long. Donc, tu as dû vivre des épreuves, des changements, des bouleversements et surtout que tu as commencé jeune. Donc, je pense que tu as plein de choses à transmettre parce que quand on commence à 24 ans, comme tu le disais tout à l'heure avant qu'on appuie sur le bouton on, une femme entrepreneur à 24 n'est pas du tout la même que maintenant à 34 ans. Bon, voilà. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu d'abord de l'équipe, tu vois, de ce qui t'entoure ? Qui t'a entouré dès le début. Ensuite, peut-être nous parler de ce que c'était que ta marque au début, pour voir s'il y a des changements. Et moi, j'aimerais t'entendre aussi, après je te reposerai la question, là, parce que ça te fait 3 questions en une, mais c'est surtout les épreuves, tu vois, les vrais tournants, finalement, d'entrepreneur que t'as vécu et des trucs où tu t'es dit, là, il se passe quelque chose, quoi.
Ouais. Alors, écoute, donc je me dis que je lance une marque. Je me retrouve en 2011. Je retrouve une copine de toujours, Virginie Courtin. On est copines depuis qu'on est toutes petites. On allait au cours de tennis ensemble. On s'est recroisées en prépa. On s'est retrouvées à l'EDEC. J'ai toujours su que j'allais faire un truc avec elle. Et là, je me dis, ok, c'est bon, c'est elle. Elle va devenir mon associée. C'est parfait. Elle travaille à cette époque-là au printemps, aux galeries, je me souviens plus, aux galeries peut-être, peu importe. Et elle me dit, écoute Claire, ok, banco, j'ai envie de monter mon truc. Je risque un jour de retourner, elle appartient à un grand groupe. familiale. Je risque un jour d'y retourner. J'aimerais vraiment monter mon truc parce qu'elle aussi, elle a l'entrepreneuriat dans le sang. J'ai adoré cette manière. C'est aussi, d'ailleurs aussi pour ça que j'aime beaucoup Virginie et que j'ai beaucoup d'affection pour elle. Et donc, elle me dit, je veux qu'on monte un truc, montant une marque de maillot de bain. Et là, je lui dis, écoute, franchement, une marque de maillot de bain éthique, engagée, ça me paraît beaucoup trop ambitieux. Et elle me dit, mais si, tu vas voir, ça va être canon, machin. Et donc là, on est parti, business plan, je cherche dans toute l'Amérique latine des centres de production, je te raconte pas la galère.
Donc il pour n'existe... toi, c'était obligatoire que tu fabriques en Amérique latine?
Moi, j'habitais là-bas. Donc en fait, l'idée,
physiquement, c'est... t'étais encore là-bas.
Physiquement, j'étais là-bas. Et puis, en Europe, il n'y avait pas grand-chose. L'Amérique latine était déjà un peu développée, notamment en coton bio. Mais il n'y avait pas grand chose en fait sur le marché. On ne voulait pas travailler avec la Chine, c'était hors de question. Et l'idée, c'est que je m'occupais de la production. Nous allions devenir mondialement connus en 6 à 18 mois. Donc on allait beaucoup vendre aux États-Unis. Et donc l'Amérique latine étant en face des États-Unis, le BP était parfait. Voilà, donc ça, on lance ça. Alors, c'est tout de suite, les copines adorent, on fait des petites ventes privées. Le bon marché nous fait confiance. On lance notre première collection en 2013, ils nous prennent en exclu. Donc là, pour le coup, c'est la première grosse victoire. Et là, ça y est, on se dit, ça y est, à nous, des bureaux de 150 mètres carrés, le salaire de... d'une grande dirigeante d'entreprise, c'est bon, putain, c'était hyper facile, génial. Bon, ce qu'on n'a pas compris, c'est que c'est sympa d'avoir un contrat avec le bon marché, mais ça fait pas tourner une boîte.
Non. Ça rapporte pas beaucoup d'argent.
Voilà. Et puis, faut qu'on ait plein de contrats. Il faut qu'on vende. En fait, on se rend compte que c'est pas parce qu'on a vendu à Paris qu'on vend dans le monde entier. Le digital encore, il est pas encore aussi développé qu'aujourd'hui. Et donc voilà. Donc ça, c'est la première belle réussite, et en même temps s'ensuit un peu une déception. On se dit, ok, le mois d'octobre arrive, j'ai que des maillots de bain à vendre. En mois d'octobre, les gens n'achètent pas de maillots de bain, et on se rend compte qu'en fait aller se développer à l'étranger, ça coûte beaucoup d'argent, et surtout on est hyper jeune. Et donc on se rend compte qu'en fait que c'est vachement bien d'être jeune, et ça pour le coup moi je le recommande, mais en fait être jeune, ça a autant de qualités que de défauts quand on lance sa boîte.
Tu te précipites un peu.
Ouais, et puis on croit que tout, le monde est à nous en fait. Le monde est à nous, donc c'est génial parce que les gens se disent, elle est top ton idée, tu lâches rien. Et en même temps, tu comprends pas qu'une boîte c'est 360 degrés et que c'est pas que l'idée, c'est pas que la personnalité, c'est pas que la trésorerie, c'est pas que lever des fonds, pas lever des fonds. Enfin, en fait, c'est on en parlait justement aussi tout à l'heure, c'est tout. Et aujourd'hui, effectivement, on en est arrivé 10 ans après à comprendre que c'est tout. Il faut que je gère mon BP, il faut que je gère ma trésor, il faut que je gère mon équipe, il faut que je gère mes clientes, il faut que je gère mon site. Enfin, il faut que je gère tout le temps. Donc voilà, donc c'est Virginie avec qui je crée. Assez rapidement, elle me dit, ça y est, on m'appelle, on lui propose un super poste, hyper bien payé et tout. Je lui dis, mais attends, fonce, on l'avait dit. À ce moment-là, ma sœur qui a... qui sort d'études, alors 23 ans, ouais. Moi à ce moment-là, je crois que j'en ai 25. Non, parce qu'on a 5 ans d'écart, ça marche pas. Bon, en tout cas, elle est toute jeune, elle sort d'études. Et je me dis, tiens, avec qui je vais pouvoir faire ça? Et puis hop, je me dis, bah parfait, ma sœur Alix. Donc là, désespoir de mes parents qui se disent, oh là là, il y en a une, elle se lance dans sa boîte. Bon.
Et elle est en train d'embarquer l'autre.
Et elle embarque l'autre, elles sont folles alliées. Je n'écoute, parce que c'est une grande partie de ma personnalité, je n'écoute jamais. Surtout quand on me dit de ne pas faire quelque chose. Donc il vaut mieux me dire de le faire et c'est la meilleure manière que je ne le fasse pas.
Je le connais, je suis pareil.
Et Alix est hyper convaincue. Et voilà, et donc on s'embarque toutes les deux. Deuxième challenge, on est trop contentes, on bosse entre sœurs, on est hyper proches, hyper complémentaires. On trouve ça génial. Et puis bah, pareil, au bout de 6 mois, on se dit ouais, bon, bah, super, mais bon, comment on fait pour vendre à l'année, pour avoir un super chiffre, il faut qu'on se paye. Enfin, toutes les réalités... et donc voilà, et donc en fait, l'une et l'autre réfléchit beaucoup à la stratégie. Et on dit qu'on va faire moins. En fait, on change un peu notre manière de travailler. On se rend compte, on a pas mal de retours sur la matière. Donc on se rend compte qu'il faut qu'on fasse plus de matière, plus de produits, qu'on propose des collabs, qu'on ait plein de points de vente. Et donc là, on travaille de plus en plus comme des acharnés toutes les deux. Et on a effectivement 3 ans de beaucoup de boulot. On a toujours, en fait, tous les ans, on a vraiment le fruit de nos efforts. Mais ça a mis 3 ans à vraiment commencer à se dire on est une marque totalement établie. On a commencé à avoir des beaux contrats. Donc l'année dernière, donc c'était il y a 2 ans, Consécration Victoria's Secret nous envoie un mail et nous dit on veut faire une collab avec vous. Et là, on se dit ok, donc là, c'est Victoria's Secret, la référence number one du swim. Ça y est, c'est le Graal. Et comme à chaque fois quand t'as une boîte, à chaque fois t'as une merveilleuse réussite, tu crois que c'est le Graal, mais tu te rends compte que derrière le Graal,
il y a toujours un truc qui pue.
Il y a toujours un truc qui sent pas très bon. Alors là, il y a un boulot de dingue. En plus de ça, donc ça a été une super collab, mais ça a été un boulot de dingue. On devait signer 4 collabs avec eux. Finalement, il y en a qu'une. Donc c'est pas la même chose de faire 4 collabs avec Victoria's Secret que d'en faire une. C'est nous qui avons avancé tous les financements parce que Victoria's Secret te paye à 45 jours. Donc pour une petite boîte comme nous, enfin pour une boîte moyenne comme nous, c'est tu alignes 150 000 euros et c'est
tout ce qui brille n'est pas de l'or.
Voilà, donc en gros, à chaque fois qu'on a eu des grosses consécrations, voilà, on s'est rendu compte. Ce qui nous amène d'ailleurs aujourd'hui à se rendre compte que le plus important, c'est qu'on ait bien les pieds sur terre ancrés, qu'on a une vision à 360 de nos responsabilités et de tout ce que ça implique, et que les gros projets parfois sont les plus périlleux et ceux qui nous mettent les plus danger d'ailleurs. Donc voilà, donc mon équipe d'abord à la base c'est Virginie, ensuite c'est ma sœur, elle est toujours là, on bosse. Trop bien ensemble, on est complètement complémentaires, on a 5 ans d'écart, on se dispute jamais, parce que souvent on pose la question, ah c'est pas trop dur de travailler avec sa sœur, c'est un bonheur. Moi je travaille avec ma sœur, enfin la famille, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important, on s'engueule jamais vraiment, on se respecte énormément. Moi je m'occupe de toute la partie production, direction artistique
c'est
et finance.
C'est ta boîte à 100%? Aujourd'hui, c'est ta boîte, ouais. Tu es actionnaire total
avec ma sœur et ma mère. Et okay. Virginie qui a gardé un peu de part.
Donc une boîte purement féminine, quoi.
Une boîte purement féminine, complètement. Et en fait, par hasard, notre équipe, c'est que des nanas. Et en fait, bon après, ça reste, on est effectivement aussi une marque féminine. Mais on commence d'ailleurs à... On a beaucoup été approchés par des hommes. J'aimerais bien là intégrer un homme dans l'équipe parce que je pense qu'ils ont aussi une vraie vision différente. Et
quand tu dis approcher, c'est des investisseurs potentiels, c'est ça?
Investisseurs, des gens...
Partenaires,
des gens qui veulent faire des missions chez nous, voilà.
D'accord.
On a
c'est
eu vraiment
pas mal aussi la mixité quand même.
Ouais, bah là, si tu veux, ça commence, voilà, tu vois, comme ça fait 10 ans qu'on est que des nanas, ça commence à me... J'ai envie. Et puis j'ai rencontré plein de gens avec qui on a envisagé de faire des projets. Et ça m'a plu, en fait. Les projets ne se sont pas faits pour des raisons X ou Y, et peu importe. Mais ça m'a plu d'être au contact des hommes et de leur vision et de leur côté aussi très...
c'est important.
Très pense. Financier, très économique. Mmh. Et voilà. Et on lance l'homme aussi à la rentrée. Donc ça prend son
génial.
Sens. Ouais. Ouais, en fait, on avait plein de projets là, pour cet été 2020. Et le Covid est venu bousculer... dans le bon sens plein de choses.
C'est-à-dire
remise en question comme toujours, grosse remise en question. Nous on a une taille suffisamment petite pour avoir été on s'est adapté hyper vite à ce qui s'est passé. Nous comme on a moqué notre boîte de bric et de broc, on n'a pas levé de fonds. Moi c'est ce qu'on disait avec ma sœur au début du confinement,
mais
nous c'est un peu le confinement tous les jours parce qu'en fait on a du retard sur tout, les trucs, les lancements font pas comme on veut, en fait c'est pas ça qui aboutit, c'est un autre projet, enfin voilà. Donc on a redécouvert les joies du début en fait.
Ouais.
Et en fait, c'est assez sympa.
Le système D.
Ouais, le système D, exactement. On est revenu à un système D. On est revenu à une boîte complètement digitale puisqu'on a vendu que online. On a été beaucoup plus proche de nos clientes parce qu'on était, tout le monde était plugué derrière ses réseaux
Bien
sociaux
sûr.
Ou son ordinateur. Voilà. Donc ça, et puis ça nous a tous un peu reconnectés avec le plus important, l'essentiel. Et c'est aussi le message que je communique avec ma marque. Donc, qui est une marque engagée, responsable, proche de ses clientes. Et surtout, on se remet tout le temps en question et on évolue beaucoup. Avec nos âges respectifs de celles de personnes de l'équipe et aussi les attentes des consommateurs.
On reviendra sur le côté engagé et responsable parce que juste sur la spécificité de ton coton, etc. Enfin, j'ai compris le. On va peut-être pas rentrer dans des détails hyper techniques, mais bon, on sait que c'est ça le centre quand même de ton activité. Enfin, le core business, c'est quand même l'éthique au cœur et un coton très particulier, en sachant que même le recyclé, on en parlera tout à l'heure, mais bon, excuse-moi, je reviendrai dessus. Non, ce que je voulais te demander, qu'est-ce que t'aurais... c'est vachement compliqué comme question, en tout cas la réponse, elle est pas évidente, je crois. Qu'est-ce que t'aurais fait différemment si t'avais pas fait d'école de commerce ?
Tu me poses une colle.
Ouais, je sais, c'est pas évident, mais parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a.
Ouais, alors, je n'ai rien. C'est horrible parce que je sais pas. Je n'ai rien appris en école de commerce.
Ouais, non, mais je
tu sais, c'est je crois que tout le monde dit ça. Alors, je trouve. J'ai adoré les DEC, le corps professoral, enfin, le réseau que j'ai aujourd'hui.
Bien sûr.
Tous mes potes sont entrepreneurs. On se regarde, on se check, on se parle sur LinkedIn, c'est génial. J'ai tout appris sur le tard. Mais ça, c'est le côté aussi, je me suis lancée à 23 ans. Donc, j'avais des toiles dans les yeux, une énergie de maboule. J'en ai toujours encore un peu aujourd'hui.
Ah bah
mais
oui,
c'est...
je le confirme.
mais c'est différent. C'est différent parce que je suis beaucoup plus raisonnée, ça se voit pas, mais quand même. Et j'ai tout appris sur le tard. J'ai la compta, les finances, la créa. Moi, maintenant, j'ai une marque de fringues. Je ne connaissais rien au stylisme, modélisme, gestion du vêtement, enfin, tout ça, voilà. Et en même temps, j'avais l'impression de tout savoir. Ça qui est drôle. Quand tu fais une école de commerce, tu sors de là, tu te sens un peu invincible parce que t'as checké ce qu'il fallait faire pour avoir un passeport pour la vie. Toujours est-il que le fait d'en avoir fait une, c'est comme un espèce, c'est une énorme sécurité pour moi. Et c'est vrai que quand on le dit, bah, ça rassure les gens. Autre chose, je vois passer un paquet de stagiaires chez nous. Je tiens quand même aussi à dire, pas toutes les écoles de commerce, mais globalement, quand on a des stagiaires d'écoles de commerce, ça dépote. Donc ça reste quand même, au finish, une bonne formation. Après, ce qui est vrai, c'est que moi, j'ai eu un vrai gap entre la prépa, où ça a été pour moi un puits de connaissances hallucinant. J'ai adoré la philo, l'économie, les maths, et puis t'en prends plein. Et puis c'est aussi pour intense. Des personnes qui ont beaucoup d'énergie. Donc ça nous, au bout d'un moment, à minuit, quand on n'a pas arrêté de travailler, on commence à être un peu fatigué. Et moi, ça, pour le coup, ça a été un passage de ma vie incroyable. Deux ans de vie où j'ai appris, j'ai adoré, j'ai fait marcher mon cerveau comme jamais. Mais c'est vrai que l'entrée en école de commerce, j'étais un peu déçue.
Ouais. Et dans ton business concrètement, est-ce que tu penses que ça t'a empêché de faire des bêtises ?
Est-ce que ça m'a empêché de faire des bêtises ? D'avoir fait une école de commerce ?
Ouais.
J'en fais tellement de bêtises que...
Non, mais est-ce que tu penses que...
J'aurais fait des choses différemment, peut-être. J'aurais fait les choses différemment, ouais. Je pense que... je te dis, j'ai toujours... En fait, j'ai jamais lâché ma marque. J'ai jamais voulu abandonner. On a eu plein d'emmerdes, principalement de trésorerie. On a toujours trouvé une solution. Et ça, c'est le truc génial quant à ta boîte. C'est qu'il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Et au moment où tu te dis, ça y est, c'est foutu, bim, il y a un truc qui arrive. Et ça, c'est l'école de commerce quand même qui me l'a donné. Et puis, on a eu quand même pas mal d'intervenants, tu vois, qui témoignaient. Et le réseau, et en fait, le fait d'avoir fait une école de commerce, je suis très attentive aux autres qui ont fait des écoles de commerce.
Parce que c'est l'expérience des autres qui peut-être t'éclaire aussi. C'est-à-dire que c'est d'écouter ou d'entendre les expériences des autres.
Exactement.
Qui te ressemblent, tes semblables. Quoi.
Exactement, c'est mes semblables. Après, je suis admirative, limite encore plus d'ailleurs, des autodidactes. Oui, j'adore et tout, mais c'est vrai que l'école de commerce m'a donné le goût, la fibre entrepreneuriale. Dans mes promos et de prépa et de l'EDEC, on est 80% à être entrepreneur. Je trouve ça fascinant. Voilà, moi, c'est le monde auquel j'appartiens, de par ma famille, de par mes études, et dans lequel je resterai. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu me dis, est-ce que tu pourrais être salarié d'une boîte ? Jamais.
Ah bah non. Non. Je pense que
c'est triste, mais ça, tu vois, c'est quelque chose que j'ai appris. Jamais. En revanche, il se passe la moindre... On a un problème et il faut que je me réinvente. Ça, je me réinventerai. Mais je ne serai pas salarié dans une entreprise, même si je trouve ça fabuleux. Et d'ailleurs, probablement beaucoup plus sécurisant et probablement peut-être plus agréable. J'en sais rien, mais c'est pas mon monde.
Et ta vie de maman conjointe à la vie d'entrepreneuse, se passe comment ?
Bah, c'est un challenge, c'est un bonheur aussi. Franchement, c'est une bataille de tous les jours. Moi, mon fils, il m'apprend tous les jours. Quand on est maman, on a envie de devenir la maman la plus forte. Voilà, je lui transmets le goût du travail, le goût de l'effort, le goût de la rigueur. Même s'il a 4 ans, je pense que c'est hyper important. Nos petits bouts, ils doivent comprendre.
Y a un truc qui dit que tout se joue avant 3 ans.
Voilà.
je crois.
Écoute, elle a été chaotique, ma vie de maman. Pas du tout pour mon petit chou qui est merveilleux. Mais parce que, voilà, la vie m'a donné un début de maternité très compliqué. Ça m'a aussi beaucoup appris sur ma propre nature et à quel point, en fait, quand on est maman, on a des forces mais insurmontables et qu'en fait, il y a plus rien qui peut nous rouler dessus. Donc, puis ça nous roule dessus, mais en fait, on se relève et voilà. Et ça m'a aussi donné beaucoup d'humilité, de recul par rapport à ma vie, ma boîte, mon rapport à l'autre, mon rapport à l'humain. J'ai appris à me battre. J'ai appris à me défendre, j'ai appris à dire stop, j'ai appris à être seule.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Donc ça a été Alors aujourd'hui, pareil, j'ai beaucoup de recul parce qu'à l'époque, je disais pas, j'étais pas aussi émerveillée. Mais ça a été c'est une merveilleuse expérience parce que ça m'a transformée à vie. Et c'est grâce à mon fils. Enfin, il n'est pas du tout lié au mauvais événement, mais il a contribué à me rendre encore plus forte. Et en fait, on se rend compte qu'avec de l'amour, avec le partage et avec l'envie en fait de faire évoluer les choses ou les gens. Ou nos enfants positivement, ça donne des ailes. Voilà ce que ça m'a appris.
Donc,
c'est merveilleux et en même temps, c'est un boulot de dingue, mais c'est le plus beau métier du monde. Mmh. Et donc, voilà. Et donc, entre entrepreneuse et être maman, c'est double boulot, mais c'est génial, quoi.
Mais l'un alimente l'autre, en fait, c'est ça que tu veux dire.
Exactement, exactement. Et aujourd'hui, une des choses que je souhaite le plus, c'est que mon fils soit fier de moi quand il sera plus grand et qu'il se dise, OK, ma mère, c'est une battante. Et c'est tellement important de leur communiquer ça. Et je voudrais que s'il doit se souvenir d'une seule chose, c'est vraiment ça, que je suis une battante et que je fais aussi beaucoup les choses pour lui apprendre le bonheur et le plaisir de l'effort.
Magnifique. Juste, on revient un tout petit peu sur l'aspect justement écologique. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus ? Donc, t'es partie au début sur un coton bio. Donc, tes maillots concrètement étaient en coton. Donc, c'était un sentiment qui, quand tu portes le maillot, t'as l'impression que tu portes un body et que
Exactement.
C'est pas un maillot parce que ça a pas la matière lycra qu'on peut connaître,
Exactement.
Etc. Et en parallèle, t'as une collection qui est d'un lycra mais qui est du recyclage.
Exactement.
De toile de
filet de pêche.
De filet de pêche, excuse-moi, ouais. De filet de pêche.
Alors, quand on s'est lancé en 2013, il n'existait rien d'autre que le coton bio en matière écologique approuvée. Voilà, on a parlé du chanvre, on a parlé du bambou, enfin, il y avait plein de matières. Mais en fait, il s'avère qu'elles demandent toutes beaucoup d'eau et elles ne sont pas toutes aussi écologiques que l'est le coton bio. C'est une matière que moi j'affectionne particulièrement. Nos maillots de bain, enfin les maillots de bain, il y a très longtemps, étaient faits en coton bio. Il y a encore beaucoup de maillots de bain pour enfants, notamment pour petites filles, qui sont faits en coton bio. Donc je trouvais que ça avait du sens. On y a mis 7% d'élastane, c'est donc du lycra pour avoir quand même ce côté un peu gainant et élastique. Et ça a fait notre originalité, notre spécificité, qui a entraîné beaucoup de succès et des critiques. On nous a dit, oui, mais le coton bio, super sympa, mais ça sèche pas, ça tient pas bien. Donc, on s'est beaucoup amélioré au fil du temps. Aujourd'hui, ils sèchent très bien, ils tiennent très bien. C'est important, faut que je le dise, parce qu'on a quand même bien évolué depuis 10 ans. Mais on est quand même très à l'écoute de ce que nous disent nos consommatrices. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de clientes veulent être gainées, veulent pouvoir aller faire des brasses dans leur piscine. Moi, je suis une grande sportive, donc je fais beaucoup de kite. Un peu de surf et tout ça. C'est vrai que le maillot de bain coton bio, c'est sublime pour faire la belle sur la plage, mais c'est pas un maillot technique et sportif. Et il y a 3 ans, est arrivé sur le marché le recyclé. Et le recyclé a une histoire tout aussi intéressante que le coton bio, notamment les filets de pêche. Donc, c'est des entreprises qui vont récupérer les filets de pêche du fond des océans. Les filets de pêche, ça représente 70% de la pollution marine. Les pêcheurs, c'est gigantesque. Donc, les pêcheurs les trouvent ou les jettent. Ça bousille les coraux et ça tue les espèces marines. Et ça va se coller au fin fond des océans. Et donc voilà. Là où les bouteilles plastiques, en général, flottent, les filets de pêche, c'est vraiment très, 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 très au fond. Et les filets de pêche sont faits en nylon. Donc, les entreprises ont récupéré ces filets de pêche. Ils les refondent, enfin fondent. Et avec cette matière, ils recréent du fil. Et ce fil crée la matière qu'on a aujourd'hui.
D'accord.
Donc aujourd'hui, on a des maillots de bain qui s'apparentent 100% à du maillot de bain classique, celui que tout le monde connaît.
Ouais,
mais il est recyclé.
Ouais.
Okay. Voilà.
Ok.
Donc on a aujourd'hui ces deux gammes qu'on a déclinées et dans le maillot de bain et dans le sport, parce qu'on a effectivement une gamme sport qui est en train d'énormément grandir. Et comme je te le disais tout à l'heure, on est très connu pour être une marque de maillot de bain et aujourd'hui on prend un tournant pour devenir une marque de sport et une référence. On veut d'ici un an être la référence numéro 1 de marque de sport responsable, engagée. Voilà.
Parce que t'as pas tant de concurrence que ça finalement.
Alors sur le maillot de bain, beaucoup de plus en plus. Sur le sport engagé, pas trop. Mais ça va venir et c'est tant mieux. Nous aujourd'hui, on voit toutes les marques de maillot de bain qui s'engagent sur le même créneau que nous. Franchement, moi, ça me dérange pas du tout. Manière, moi, la concurrence ou ne m'a jamais fait peur. Chacun évolue. Nous, on a notre ADN qui est à nous. Sur le sport, pas encore. Donc effectivement, l'idée, c'est qu'on aille vite et qu'on a plein de projets. Top d'ailleurs pour la rentrée. Nous on a bossé comme des dingues pendant le confinement. Là on bosse comme des dingues. On va aussi bosser pendant le mois d'août. Mais c'est parce qu'on est hyper animé par ce nouveau projet. On a eu le premier bébé, c'était le maillot de bain. Maintenant je pense que c'est un peu plus acté qu'on est une marque écologique, qu'on a 2 types de matières. Là le nouveau challenge de 2020, c'est le lancement du sport et le lancement de l'homme.
Alors moi je tiens à signaler un truc parce que ça fait maintenant quand même 30 minutes qu'on se parle, mais il y a un truc quand même incroyable, c'est que ça fait 10 ans que tu tiens sans fond. Ouais. C'est-à-dire que concrètement, t'as jamais levé de fonds.
Jamais.
Alors ça, pour moi, c'est un truc que j'adore. Ouais. Déjà, de base.
Enfin, c'est gentil, ça me touche. Parce que...
Non, mais vraiment, parce que, oui, mais il faut essayer de le, tu vois, le, c'est pour ça que je tiens à le signaler. Parce que souvent, quand on entreprend, et quand je dis on, c'est la jeune génération qui sort d'école ou qui est de la mienne ou de la tienne, on se dit, bah, il faut que je lève des fonds en 2 ans, maximum.
Complètement.
Faut que je laisse rentrer tout de suite un fonds. OK. Moi, je suis de l'école, justement, de la non-levée de fonds, sauf nécessité extrême, une fois qu'il y a un modèle viable, etc. Mais la question est bête, hein, mais comment tu fais pour ne pas lever d'argent en 10 ans, quoi ?
Franchement, je me le pose quand on a des problèmes de trésor, c'est vraiment ce que je me dis, pourquoi j'ai pas levé il y a 6 mois ? Je savais que dans 6 mois, ma trésorerie allait être plus compliquée. Voilà. Écoute, on se bat comme des dingues. On a un super réseau. Donc, on a été aidés un peu par du love money à droite à gauche. On a fait des emprunts, ma sœur et moi. On a mis des économies. Moi, j'ai mis pas mal d'économies dans ma boîte. Voilà, il y a des gens qui mettent, enfin tu vois, qui achètent un petit appart et qui font un emprunt. Bah moi, mon investissement, c'est ma boîte. Ça me paraît hyper cohérent quand tu montes un truc et que tu y crois mordicus.
Ouais,
on a eu des emprunts et puis on fonctionne. Enfin tu vois,
oui, la marque
marque fonctionne. Après, le problème, c'est que à chaque fois, on réinvestit. Et je te dis, donc parfois quand je vais super bien, je dis ok, c'est bon, on lève pas. Et puis quand je vois mes finances qui diminuent, je me dis j'aurais dû lever, là j'aurais dû, là celui que j'ai rencontré il y a 6 mois, on aurait dû signer, machin. Et voilà, donc on fait step by step, on évolue énormément. Franchement, à chaque fois, on s'est débrouillé, on a trouvé une solution, on a eu une collab, on a eu.
C'est ça, vous faites des gens qui ont fait collaboration.
Ouais, on fait énormément de collaboration depuis 2 ans.
Notamment avec Léonard, que j'ai adoré.
Exactement. Donc effectivement, on a eu Victoria's Secret. On avait déjà fait quelques petites collabs avec la petite Mandigotte, enfin des trucs assez sympas. Et là, effectivement, depuis 2 ans, on fait des collabs avec Clarins, L'Oréal Monceau, Léonard, qui est un super carton, tout le monde nous en parle. Ouais. Et pour eux et pour nous, on est tous les deux hyper hyper contents.
Avec une jeune femme aussi.
Jodie, la petite Frenchie, on travaille beaucoup avec les influenceuses. Donc, on avait lancé déjà une collaboration.
Ouais, et puis l'ancienne Miss France.
Alexandra Rosenfeld. Voilà. On a lancé le surf. Ouais. Alexandra Cousteau, qui est la petite fille du commandant Cousteau. On a lancé une ligne en maillot de bain. Ça a été d'ailleurs, c'est avec elle qu'on a lancé la ligne recyclée. Mm-hmm. Et avec qui on a beaucoup communiqué sur la pollution maritime, autre que les bouteilles en plastique. Mm. Alors, bien évidemment, plus personne ne doit acheter le moindre truc dans les océans. Mais il n'y a pas que les bouteilles plastiques. Les filets de pêche aussi, c'est dramatique. Et d'ailleurs, maintenant, malheureusement...
Tout, tout court, quoi. Faut arrêter de mettre des trucs dans l'eau, quoi.
Et là, je suis désolée parce que je vois... Alors, c'est pas du tout pour faire de la promo, mais nous, on a fait des masques en coton bio. Là, à la rentrée, si le Covid revient, je sais pas quand est-ce que l'épisode sort, n'achetez plus ces masques pharmaceutiques qu'on voit déjà déversés dans les océans. Acheter les masques en coton bio ou en matière.
Oui, parce qu'en
termes
de recyclage, c'est une cata.
Non, mais c'est ça, c'est une cata. Et puis les gens les jettent dans la rue. Enfin, on en voit là. Et donc, moi, je suis catastrophée. Je me dis, mais attendez, on vient de se prendre un truc dans la tronche. Le message, il est quand même clair. Bon, si personne n'a d'autres moyens, bien évidemment, mettez les masques, le plus important. Mais essayez de acheter. Il y en a plein partout, des maillots
durables.
Des masques en coton. Oui, c'est tellement plus durable, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Vous pouvez les nettoyer. Voilà.
C'est vrai, donc, j'en ai un et je le fais.
Franchement, j'y ai pensé la semaine dernière en me disant, ok, donc on va peut-être se retrouver. Enfin, le virus revient et on voit des images là, des masques qui sont au fin fond des océans. C'est, franchement, ça me fend le cœur, quoi.
Ouais.
De voir que les gens comprennent toujours pas.
T'as raison. Oui, donc on parlait du fait d'avoir résisté pendant 10 ans contre vents et marées. Quelle est la plus grosse épreuve selon toi ? Et je pense qu'il y en a eu des tonnes et que tous les matins, peut-être que t'en as une.
Non.
Mais peut-être pas, parce que
matin,
beaucoup de bonheur et
souris.
Ouais. Et je sais pas, une très très grosse épreuve, tu vois, où tu t'es dit waouh, là, je sens que la fin arrive, quoi. Ou il y en a peut-être pas eu d'ailleurs.
Si, il y en a eu, mais attends, faut que je me rappelle parce qu'il y en a eu plusieurs. Mais là, il y a pas longtemps. Je me souviens plus quand c'était, mais il y a pas longtemps, j'avais plus de, voilà, mon réseau de Love Money, en fait, maintenant, avec les années, on veut se débrouiller toute seule. Ah oui, non, voilà, je sais. J'ai dû faire un abandon de compte courant. Donc, j'ai mis de l'argent dans ma boîte. Alors, c'est un peu technique, mais bon, quand tu mets de l'argent, tu peux le récupérer. L'entreprise a une dette envers toi. Et c'est vrai que je m'étais un peu fixée que, après mes désarrois sentimentaux avec mon fils, je me suis dit, bon, ok, c'est cool maintenant. Là, j'ai bien donné. Ça fait 10 ans que je bosse comme une malade. J'aimerais bien récupérer mon compte courant et sécuriser ma vie de maman. M'acheter un petit appart, enfin, un endroit sur Terre. Et ben il s'est avéré que on a dû solidifier les comptes. Voilà, c'est des histoires de trésorerie et j'ai dû abandonner mes comptes courants. Et ma sœur aussi, une partie, pas tout. Ça m'a fendu le cœur parce que abandonner les comptes courants, tu peux les récupérer et tout ça. Mais c'est vraiment de dire envisage que tu ne récupéreras pas cette somme que tu as mis dans ta boîte, sauf quand tu revendras. Alors qu'à la base, je pouvais la récupérer dès qu'on vend bien, je me redonne cette somme d'argent qui est comme c'est comme une prime ou un bonus qui arrive en fait avant les bonus, voilà. Et on a dû les abandonner, ça m'a fendu le cœur. Bon, en fait, c'est rien du tout, c'est de la paperasse comme d'habitude, ça change rien parce que enfin, je les récupérerai probablement beaucoup plus rapidement que je ne le crois. Mais ça a été comme un truc genre je m'étais promis tout sauf ça. Et en fait, tu vois, comme tout dans la vie, tu t'en fous en fait, tu lâches le truc, tu dis mais c'est normal. Là, on a eu un petit passage à un moment, c'est la vie de l'entrepreneuriat, on va remonter la pente et depuis, on est en train, franchement, j'ai l'impression que depuis qu'on l'a fait, on est plus légère, j'ai plus ça en tête et en fait, on marche hyper bien, on a des hyper beaux contrats, on vend super bien. Surtout au-delà de vendre, en fait, je suis hyper épanouie dans ce que je fais et ça m'a...
C'était peut-être une bonne chose finalement.
Exactement, en fait, ça m'a enlevé. Tu sais, en fait, moi, ce que j'ai appris dans la vie, c'est que quand tu te délaisses de tous tes bagages, eh ben, t'es beaucoup plus léger.
Ah bah quand t'as le dos au mur, oui.
Et en fait, je crois que le vrai bonheur réside dans ça. Il faut d'abord passer dans un bon long tunnel où tu apprends à te défaire de tout et de l'affect aussi. Et tu renais en fait ensuite. Alors, je pense que tu as mille vies d'ailleurs, donc probablement il va arriver encore des trucs et je réapprendrai à renaître. Mais là, tu vois, genre toutes ces expériences sentimentales, professionnelles, économiques, le Covid, machin, c'est vraiment, j'ai l'impression d'être dans une période là de ma vie de renouveau, tu vois. Et j'ai vachement envie de communiquer dessus, par oral, via ma marque, via mon équipe et en tant que maman.
Mais il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses. Moi, je suis pour les mamans entrepreneuses. Je trouve ça fabuleux, tu vois. Donc, je crois que, et on en parlait d'ailleurs, je crois, avec Sarah, où on se disait, il nous faut des modèles, tu vois, parce que le truc, c'est que ça y est, la période où il fallait être un homme pour diriger une boîte ou ressembler à un homme pour diriger une boîte, j'ai l'impression qu'on parle de la préhistoire. Mais on manque encore, je trouve, tu vois, dans les médias, de ou pas que dans les médias d'ailleurs, hein, mais on manque un peu de modèles auxquels, je sais pas, la jeune génération, enfin celle qui est en dessous de nous, qui a 20 ans, peut...
Tout à fait. Non, mais c'est pour ça que j'adore ton podcast. Moi, je trouve qu'il y a deux choses hyper importantes dans la vie. Il faut raconter sa vie. Alors, on va pas tout raconter, tout déballer, mais c'est hyper important de raconter les emmerdes, les couacs. Quand on s'écoute les uns les autres, en fait, on se rend compte qu'on n'est pas seul.
Il y a un critère d'authenticité.
Quand on est femme entrepreneuse, on a des critères de dingue, d'exigence, de CV, de rentabilité, de chiffre d'affaires, enfin... Et plein d'autres critères très imposants. Derrière une femme, il y a aussi... tu vois, il y a plein d'autres histoires. Il ne faut pas en avoir honte. Ouais. Si les hommes aiment plus rouler des mécaniques, nous, on a ce côté-là. Et il y a aussi une vraie sororité entre nous. Donc, c'est hyper important de dire aussi... voilà. Moi, j'ai écouté ton interview avec Pauline, je crois.
Ouais.
Qui, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ne veut pas d'enfant.
Pauline Lagnot.
Ok. Ouais. J'ai trouvé ça hallucinant. J'ai trouvé ça fascinant. Tu vois, j'ai limite envie... J'aurais dû, d'ailleurs, j'ai limite envie de lui dire... Mais c'est génial, en fait, aujourd'hui, d'entendre une nana qui dit « je n'en veux pas », elle en aura peut-être, on n'en sait rien, mais qui l'affirme, en fait, et qui « lâchez-nous les baskets, on a des enfants quand on a envie ». Moi, en l'occurrence, j'en ai eu un par hasard, c'était pas voulu, ça reste que c'est la plus belle chose de ma vie, mais voilà, donc en fait, dans la vie, rien ne se passe comme... Et on fait ce qu'on veut, quoi.
Ouais, je suis d'accord. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil si demain, t'avais... Bon, tu travailles avec ta petite sœur, mais elle a 5 ans de moins que toi, mais... Quel est le gros conseil que tu donnerais à une entrepreneuse ou un entrepreneur d'ailleurs qui se lance dans ton environnement? C'est très particulier parce que toi, tu es dans un environnement particulier. Je te dirais pas, oui, tu peux me donner un conseil général ou générique, mais parce que dans ton environnement, c'est quand même très particulier. L'intention est bonne et moi, j'en ai vu beaucoup, tu vois, justement, qui disent on veut changer le monde, on veut faire ci, on veut faire ça, et puis bam, qui s'effondrent au bout d'un an ou qui se démotivent ou qui continuent mais ne sont pas rentables.
Ouais.
Il y en a une tonne.
Ouais, bien sûr, malheureusement. En plus, d'ailleurs, t'as raison, dans l'écologie ou dans
le mieux vivre, le mieux être, ou le mieux consommer.
On est beaucoup à se casser la gueule, ça, c'est sûr. Écoute, il faut... Le plus important, c'est que le modèle, il faut qu'il soit cohérent. Le BP, on nous le bassine en école de commerce. Moi, j'ai grandi avec un père qui épluchait les business plans. J'ai mis du temps à vraiment comprendre ce que ça voulait dire, mais je peux dire que maintenant, je sais très bien faire un BP. C'est hyper important. On a l'impression, mais non, mais c'est dans ma tête. On est hyper convaincu. Non, c'est le BP number one. C'est comme ça. C'est pas autrement. C'est comme il faut se brosser les dents tous les matins. C'est la base. Et après, une fois que le BP est bien fait, on lâche plus rien. La niaque, le réseau, on écoute, on questionne, on toque à des portes. Moi, j'ai toqué, je le faisais moins jeune. Maintenant, tu vois, j'hésite pas à...
Mais tu y vas, quoi.
Non, mais j'envoie un mail, là, est-ce que je pourrais, j'ai un truc à vous demander. Et voilà, donc il faut vraiment pas hésiter. C'est monter une boîte, monter un projet, et aussi dans ce milieu, il faut quand même avoir des connaissances.
Oui, c'est ça.
Voilà. Et changer le monde, c'est aussi, ça te donne autant que ça désillusionne beaucoup. Tu vois, moi, avec Loose, quand j'étais, je pensais que je changeais le monde. Et d'ailleurs, quand je vendais mes produits, je disais « You're changing the world ». Aujourd'hui, tu vois, j'ai un peu le sentiment que bien sûr, je contribue à quelque chose, mais c'est une mini goutte d'eau dans un immense océan de challenge. Et je me sens pas assez efficace, tu vois. Et donc, dans l'écologie...
C'est le propre de l'entrepreneur qui n'est jamais satisfait.
Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Écoute, l'écologie, c'est hyper vaste. C'est un beau projet, c'est très utopiste. Mais voilà, il faut le savoir. Il faut savoir que dans l'écologie, tout ne sera pas... Tout ne sera pas beau, magnifique et tout. Il faut rien lâcher. Et aujourd'hui, ce qui est top, s'il y en a qui m'écoutent, qui veulent se lancer, aujourd'hui, les gens sont prêts. Moi, quand je me suis lancée, je parlais écologie, les gens me riaient au nez. Alors, ils me trouvaient super mignonne et super sympa. Mais ils y croyaient pas du tout. Et alors, sans parler de, je faisais des maillots de bain. Donc, les gens disaient, super sa boîte de maillots de bain. Franchement, s'il y a un truc dont je suis hyper fière, c'est qu'aujourd'hui, les gens connaissent notre marque. On nous dit, ah, mais ouais, je connais, c'est canon. Franchement, ça me remplit vraiment, ça me remplit le cœur de bonheur et de me dire, j'ai bien fait de pas lâcher. Mmh. Et en même temps, j'arrive quand même à passer un petit message. Et puis, comme tu disais là tout à l'heure, il y a aussi ce côté femme entrepreneuse. Je suis hyper fière d'être une femme entrepreneuse, une jeune maman. J'ai trop envie de communiquer là-dessus. Je sais que, dans ma troisième vie, je communiquais encore plus. Voilà, rien lâcher, avoir des convictions, il y a de la place pour tout le monde, il faut juste que le bébé soit bien.
Ouais.
Et ça, c'est hyper important.
Je suis d'accord. En sachant que ça se modifie un bébé au travers du temps quand même.
Il évolue tout le temps. Ouais. Ce qui est important, c'est que ta stratégie, c'est tes convictions
profondes. C'est tes repères.
Exactement. Mais tu sais, de toute manière, le secret de la vie en général, c'est se réinventer.
Oui, oui.
Tu te réinventes. Ça veut pas dire que tu te renies.
Oui. Non, mais tu pivotes.
Quoi. Voilà, exactement.
Ouais.
Exactement.
Je pose toujours trois questions récurrentes à mes invités. C'est une première un peu stratosphérique qui consiste à savoir ce que tu penses de la France actuellement.
Ouais. Merci pour la
question. T'as des velléités politiques. non, mais ce que tu penses de la France, quel est ton feeling, tu vois?
Franchement, je vais peut-être te décevoir, mais je suis moi qui ai vécu longtemps à l'étranger et qui ai critiqué la France. En plus, je suis entrepreneuse, donc moi, si tu veux, les histoires de chômage, retraite et tout ça, ça me passe un peu au-dessus du... Voilà, parce que je me dis, mais attends, moi, je vais pas avoir de retraite, j'ai pas de chômage si ma boîte plante. Là, franchement, avec ce qui s'est passé, j'ai été impressionnée de l'élan, pas de tout ce que Macron a fait, mais pour les entreprises.
Ah bah, c'est impressionnant.
Et pour les entrepreneurs. J'ai trouvé ça hallucinant.
C'est un choix idéologique.
Et là, je peux dire que je suis fière d'être française. La BPI, ce qu'elle a fait, on sent qu'ils sont là, les autres entrepreneurs, parce que donc moi dans ma boîte, on est deux salariés, le reste, on est une armada, enfin une armada, mais on est 15, entre 15 et 20, mais ils sont tous freelance parce que c'est trop lourd pour nous deux salariés. Alors ils travaillent aussi et pour nous, et ils font des petites missions à droite à gauche, donc tout le monde s'en sort bien. C'est un truc qui m'a un peu posé problème dans les petits pincements au cœur là pendant le confinement. J'ai réussi à maintenir toute l'équipe, quasiment tous au boulot. Voilà, mais je me suis vraiment posé la question, quoi. Et heureusement, l'État est intervenu et a donné des aides aux entrepreneurs, enfin, parce que c'est vrai que les entrepreneurs, ils sont un peu les oubliés.
Pas du tout reconnu, ouais.
Et voilà, donc voilà, franchement, là, en ce moment, j'en suis fière. Je pense qu'il va falloir s'armer beaucoup de courage et qu'il faut que tout le monde se mette au travail. Et voilà, je pense que la France en est capable. Faut arrêter de se plaindre, faut avancer. Moi, je retiens une grande leçon de mes amis, les Argentins. Ils ont vécu je ne sais pas combien de crises. D'ailleurs, ils sont toujours confinés, les pauvres. En même temps, le pays économiquement va tellement mal qu'en fait, ils font exprès de les garder confinés pour leur expliquer qu'en fait, l'économie est plombée.
À cause du
Covid et non pas voilà, donc petite pensée pour eux. Il faut aussi que les Français apprennent à regarder autre part, et typiquement l'histoire de l'Argentine, c'est assez fascinant, et il faut apprendre à se battre, quoi, je veux dire. Donc voilà ce que je pense de la France. Je suis plutôt redevenue assez chauvine avec ce qui s'est passé.
Bah, je partage ton point de vue, surtout quand tu vois ce qui se passe aux États-Unis et
exactement.
Que tu vois les choix des dirigeants, à savoir je choisis ou pas ma population
exactement
et mon économie. Et après, deux autres questions, donc toujours récurrentes, c'est un coup de cœur et un coup de gueule. T'es pas obligé d'en avoir. Mais coup de cœur, ça peut être pièce de théâtre, ça peut être un film, ça peut être une rencontre, ça peut être une marque, ça peut être une musique, ça peut être n'importe un livre, ça peut être ce
alors,
que tu veux.
Alors, aucun
rapport. À mon avis, t'as pas beaucoup de temps de lire en ce moment.
En fait, je me trimballe quand j'ai pas mon fils, puisque mon fils est parfois avec son papa. Je lis beaucoup, j'adore. J'écoute des podcasts, les tiens notamment, et je lis beaucoup. J'ai mon petit Kindle, je trouve ça hallucinant. Donc gros coup de cœur pour le Kindle. Il y a tous ceux qui disent ouais, mais moi j'adore nanana. Moi je mets 15 bouquins dans mon Kindle. Ça pèse pas lourd dans le sac, ça se lit partout. J'ai gros coup de cœur pour ça. Deuxième gros coup de cœur, c'est Je fais de plus en plus de vélos électriques.
Ouais.
Je trouve ça fabuleux.
T'en as acheté un ?
Non, j'en ai pas encore acheté un parce que j'ai pas d'endroit pour le ranger. Enfin, okay. Bon, bref, j'habite à deux pas de mon bureau. Mon fils est encore trop petit pour me suivre à fond la caisse, voilà. Et je trouve ça fabuleux. Maintenant, tu vois, j'ai vachement appris avant. Donc, j'ai vendu ma voiture. On va voir ce qui se passe à la rentrée, mais j'ai le projet d'en acheter une soit hybride, soit électrique, parce que j'essaye effectivement à chaque fois d'être de plus en plus engagée. Et j'ai un gros coup de cœur sur le vélo électrique. Voilà, je trouve ça dingue, à Paris, à la campagne, enfin partout. Et je suis fascinée. Alors j'ai vu que quelqu'un qu'on connaît bien en a lancé un extrêmement cher. Moi, je ne suis pas pour les produits écologiques engagés, respectueux, trop chers. Je vois pas trop l'intérêt. Mais il y en a plein effectivement qui sont assez bon marché. Et l'État, encore une fois, te donne une prime à l'achat. Je trouve ça fabuleux. On critique beaucoup ce qui se passe dans Paris. Ça fait 15 ans qu'on a expliqué que Paris allait devenir quasiment piéton, en tout cas le petit Paris. Ouais, on râle, mais en même temps, moi, là, j'ai fait du scooter il y a 2 jours. J'avais le visage rempli de pollution, je me suis lavé 3 fois. Ça pollue, c'est dégueulasse, nos enfants respirent ça. Enfin, il faut que Paris redevienne vert et arrêtez avec vos bagnoles pour faire 3 kilomètres. Prenez le métro, le vélo électrique, les trottinettes ou le bus.
Ça pose des problèmes à des gens qui viennent de dehors, oui. Tu vois, pour rentrer dans Paris et pour des gens qui vivent pas et qui doivent bosser dans Paris.
Moi, j'en connais beaucoup.
Ah non, mais
qui
je suis
utilisent
d'accord.
Leur voiture pour un ou pour un an.
Oui, mais le gros, on va dire,
bien sûr.
On
ne
va pas partir sur Paris, sinon on ne dort plus.
C'est clair.
Non, c'était après, éventuellement, un coup de gueule, si tu en as un.
Coup de gueule, les masques. Ouais. Les masques qui sont bazardés. Je te dis, j'ai vu ça il y a 3 jours, ça m'a fendu le cœur. Ouais. Je me dis, mais attendez... Je sais pas, tu te demandes, peut-être qu'ils ont plus les bouteilles plastiques. De manière, moi, tout ce qui est l'écologie, alors moi, je suis très... on peut tous devenir écologiques chaque jour un peu plus. Il y a des trucs débiles. Il y a des gens, ils laissent encore l'eau couler quand ils se brossent les dents. Ceux qui m'écoutent et qui le font, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez de... Éteignez le lavabo quand vous vous brossez les dents. Démaquillez-vous avec des cotons lavables. C'est tout bête.
Coton lavable ?
Ouais.
T'achètes
un bout de tissu. Et tu te démaquilles avec ça et tu le mets ensuite, tu peux l'utiliser 1, 2, 3, 4
fois.
C'est
quoi comme tissu ?
Tu peux l'acheter en coton bio, il y en a partout, dans tous les monops.
Je savais pas. Là, tu m'as
mais tu sais, à la base,
honte.
Mais tu sais, à la base, quand les enfants étaient petits, on leur mettait des couches en coton. Hein.
T'as raison.
Et tu l'avais. Alors, bon, là, c'est peut-être un peu plus, tu vois, si j'ai un jour un deuxième enfant, je sais pas si je lui mettrai des couches en coton, mais bon.
Ouais, j'avoue que franchement.
Ouais, mais bon, on fait un paquet de choses. Tu vois, il y a un truc qui me désole, autre coup de gueule, parce que en fait, j'en ai plein. Hein. J'adore les sushis. Puis, à chaque fois que je commande, je vais chercher en bas. Ils me donnent tous les emballages, la plastique et tout. Je te jure, ça me fend le cœur. On peut pas faire des boîtes, on arrive, ils nous mettent les sushis, on repart avec. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Donc, non, tout ce qui est pas. Le manque d'effort total. Les gens qui font semblant de pas avoir compris que notre planète est vraiment en danger, que c'est nos enfants qui vont payer, et que c'est déjà limite un peu trop tard. Après, moi, j'aime pas du tout être fataliste. Mais il y a tellement de petits gestes qu'on peut faire.
Ouais, mais bon, après, c'est vrai que les petits gestes, enfin, je sais pas, moi, au travers de mes interviews, j'ai compris que les petits gestes, et quand j'interview des gens qui sont dans ce métier-là et qui, c'est non seulement du côté de la consommation, mais c'est aussi du côté de la création, tu vois, enfin de l'industrie. C'est-à-dire que tu peux pas incriminer autant les consommateurs, parce qu'au bout d'un moment, les consommateurs, finalement, ils font ce qu'on leur propose.
Mais
après, c'est vrai que les petits gestes peuvent compter. Moi, j'ai un peu le sentiment que tout le monde se dit, à juste titre peut-être, ouais, enfin finalement, c'est pas moi qui vais faire la diff.
Ouais, mais justement, ça c'est la grosse erreur. Tu vois, c'est ce qui a été fascinant dans mon partenariat avec Alexandra Cousteau, donc qui est la petite fille du commandant. Elle nous a dit justement, moi je disais, ouais, je suis un peu gênée, vous changez le monde, moi je suis là avec ma marque de fringues et tout. Et elle m'a dit comme toi, elle m'a dit, non mais attends, tu plaisantes ou quoi ? Heureusement qu'il y a des gens comme toi et c'est petit mais c'est déjà énorme. Et surtout, elle me disait, chaque geste compte.
Oui, mais
chaque
toi, t'as geste. Une marque, tu vois ce que je veux dire ? Donc toi, tu te positionnes en tant qu'entrepreneur, tu offres un produit qui a effectivement vocation à s'inscrire dans le monde de demain. Mais le type qui est au fin fond de sa banlieue, tu vois, genre qui se dit, bon, est-ce que vraiment j'ai un intérêt à trier mes bouteilles, à trier mon truc à...
Non, mais c'est le principe de la masse. 1 + 1 + 1 + 1 fait la masse.
Je sais très bien, tu vois. Mais après, c'est vrai que comme ça, je crois que la pédagogie, elle n'est pas encore forcément super bien faite.
Et tu vois, tu en viens à si un jour on revend Loose, quand on aura revendu Loose, que c'est comme ça que ça va se passer, j'en suis certaine. Il faut avoir des objectifs. J'aurai une troisième vie, et dans cette troisième vie, c'est ça. Enfin, tu vois, il y a notamment ça. Alors, je ne sais pas où, quand, comment, sûrement pas en politique, mais il y a tellement de choses à faire et il y a ça, en fait, d'aller convaincre encore plus. Tu as raison.
Tu as peut-être un parcours en politique, hein, tu sais.
Ouais, je ne sais pas, franchement, non. Non, vraiment, ça, tu vois, c'est un truc qui me... Non, mais il y a plein de trucs à faire dans l'éducation. Moi, j'adore les enfants. C'est à eux, en fait, c'est à eux qu'il faut apprendre des gestes.
Bien sûr. Bien sûr.
Et ils auront des automatismes que nous, on n'a pas du tout eu. C'est éteindre clair. Les lumières, éteindre, tu sais, là, les doubles prises où on a la lumière rouge qui reste allumée. Ne pas laisser les ordinateurs allumés.
On n'y est pas encore, hein, malheureusement.
Non, mais tu vois, en fait, si tu leur apprends aux enfants, ils feront des. C'est pour ça, souviens, mon fils, je te jure, si tu veux, je t'enverrai une vidéo ensuite. Il parle de recyclage toute la journée, de pollution. Il sait que sa maman bosse un peu pour protéger la planète.
La pomme ne tombe pas loin de l'arbre.
Non, mais je te jure. Mais attends, mais je trouve ça génial. Et en plus, à un enfant de 4 ans qui t'explique ah non, faut pas jeter par terre, c'est de la pollution.
C'est beau.
Mourir, donc tu vois, c'est tellement mignon. Et c'est par eux que ça passe, tu vois. Donc c'est hyper
beau,
important. Et il faut éduquer nos enfants, surtout là-dessus. Peut-être que nous, c'est trop tard. Mais
non,
nos enfants...
parce que tu vois, moi, j'en apprends tous les jours. La preuve en est, tu vois, j'ai essayé d'acheter du coton et d'arrêter de jeter mes ronds de coton dans la poubelle.
Mais tu vois, il y a un truc, j'ai pas le temps parce que j'aimerais tellement pouvoir, via la marque, plus communiquer sur tous les trucs que je fais. Moi, chez moi, je lave tout.
Au
bicarbonate de soude et au vinaigre, tout est au vinaigre, au bicarbonate. C'est le truc le plus écologique.
Créer une newsletter ou écrire un bouquin ou faire un truc, quoi.
Il faut I need a bit more time, mais ouais.
Ouais,
non,
le temps,
en plus, t'as raison. Les personnes qui te disent j'ai pas le temps, c'est un truc que je déteste.
Moi, j'ai toujours pensé que quand on veut trouver le temps, on le trouve.
Ouais, non, mais t'as raison. Non, mais c'est que j'ai d'autres priorités plus importantes que ça, mais on va y venir. L'équipe devait grandir. D'ailleurs, l'équipe doit s'agrandir. Ça va peut-être un peu retarder avec le Covid. Voilà, mais effectivement, moi, j'aime beaucoup déléguer de plus en plus. Et effectivement, comme tu viens de le dire, de me focaliser sur des trucs qui me font vraiment plaisir et que probablement je fais. On ne fait jamais aussi bien les choses quand on le fait avec du cœur. Donc voilà.
Bah, il faut de la joie parce qu'en fait, sinon, tu fais tout comme une corvée, c'est dommage.
Eh bien, tu as raison, tu viens de me donner l'idée. Je vais faire une newsletter de la rentrée.
Ah voilà, génial. J'adore donner des idées.
Non, mais c'est trop bien. Je vais faire un message à toutes mes consommatrices, enfin clientes, je ne veux pas dire consommatrices. Et je vais leur donner tous mes tips engagés et leur demander de m'envoyer les leurs.
Bah ouais.
Hyper bien. Pour leur souhaiter une bonne année pleine
de
bonne humeur.
Tu feras une mention du podcast dans la newsletter.
Exactement. Bah ouais, carrément. Non, mais attends, je sais pas quand est-ce qu'il sort, mais tu me le dis. De toute manière, on le mettra dans la newsletter, on le mettra sur les réseaux, on communiquera bien évidemment sur toi.
T'es adorable.
On peut aussi, celles qui seront pas encore parties en vacances, je te donnerai un code promo pour les.
Ah, c'est sympa.
Spéciales. Bah ouais, spéciales qui t'écoutent.
Génial.
Bon, c'est comme ça aussi que, qu'on crée une nouvelle communauté. Et puis voilà, en tout cas, je te remercie d'avoir accueilli.
Mais merci à toi, Claire. Franchement, c'était un moment super sympa. T'as une personnalité incroyable. Je regrette que là, pour le coup, ce ne soit que audio, puisque t'es vraiment quelqu'un de vivant et t'es une belle nana en plus. Donc vraiment, merci beaucoup. T'es rayonnante. Je te souhaite le meilleur, vraiment.
Merci. Moi aussi, je te souhaite ça.
Mais va pas trop vite non plus.
Ouais,
quoi.
Non. Mais tu sais, quand je parle, on a l'impression que je vais très vite, mais en fait, je suis très réfléchie. Et je te dis, le nombre d'emmerdes que j'ai eu dans ma vie m'ont appris à devenir beaucoup plus. Je sais pas si on dit précautionneuse. Ça se dit précautionneuse.
Ouais.
Tu vois, je fais attention maintenant.
Ouais.
On dirait pas, mais je fais attention. Avant, je fonçais partout. Voilà. Maintenant, j'ai vite.
Et bonne chance et bonne route pour la suite.
Merci, toi aussi. Bonne continuation. Je suis sûre qu'on se recroisera.
Ouais, ça marche. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Avant de vous quitter, sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur le site www.reel.fr. Si vous voulez réagir, me contacter ou me proposer des invités, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur Instagram. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner pour recevoir les notifications. Alors je vous dis à très vite pour un prochain épisode.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.